Dans le cadre de cette présentation que je vous propose donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter, plutôt que des résultats de recherche, plutôt quelques pistes de réflexion sur la mesure et la classification nosologique des mutilations sexuelles féminines pour un peu venir à la suite des deux présentations précédentes. Réflexion que j'ai pu développer à partir des travaux que je mène depuis plusieurs années sur cette question en France, mais aussi qui sont le fruit de toutes les discussions collectives avec les collègues qui travaillent sur ce sujet. Alors, ce que je vous proposerai, c'est tout d'abord de refaire un historique de l'élaboration de la typologie de l'OMS sur les mutilations sexuelles et de montrer quel a été l'apport de ce travail pour faire avancer la lutte pour l'élimination de ces pratiques, pour faire prendre conscience à la communauté internationale et aux communautés concernées du caractère dramatique des mutilations sexuelles. Mais je voudrais aussi essayer de montrer que cette typologie présente un certain nombre de limites, notamment pour les recherches en matière de morbidité et de risque de santé que rencontrent les femmes concernées. Et je terminerai donc ma présentation par quelques propositions pour la suite des réflexions sur ce sujet. Alors, tout d'abord, quelques dates clés que la plupart d'entre vous connaissent sûrement. Et pour situer mon propos dans l'histoire de la lutte pour l'élimination des mutilations sexuelles, je vais donc revenir un peu sur la chronologie de la prise de conscience du caractère néfaste et des effets délétères sur la santé des femmes concernées. Alors, comme l'a dit Claudia Capa dans son intervention, les premiers travaux mettant en évidence de manière explicite les conséquences médicales de l'excision peuvent être attribués au rapport rédigé par Francisca Hoskin en 1979, qui a servi de base à la première réflexion de l'OMS sur ce sujet. C'est donc la première, dans le cadre de ce rapport, qu'on trouve les premières descriptions explicites des conséquences sur la santé des femmes. Elle y décrit donc, par exemple, pour la première fois, les conséquences médicales immédiates et les conséquences médicales de long terme. Ce rapport va servir de point d'appui donc, aux premiers travaux de l'OMS sur la question. Et c'est lui qui va permettre donc de définir ces pratiques d'excision comme une pratique traditionnelle néfaste ayant des conséquences sur la santé des femmes et des enfants. Par la suite, c'est le comité interafricain pour l'abandon des pratiques traditionnelles néfastes qui va poursuivre la réflexion, notamment à travers le rapport produit en 1987 lors de la conférence d'Addis Abeba par le docteur Olayinka Kosotoma, qui va souligner là encore les conséquences sur la santé de l'excision au-delà des débats sur les justifications culturelles qui pouvaient entourer ces pratiques à l'époque. Enfin, on peut considérer que c'est la décennie 90, avec notamment les deux grandes conférences du Caire en 94 et de Beijing en 95, qui vont définitivement établir un consensus sur le fait que les mutilations sexuelles féminines posent de très nombreux problèmes de santé pour les femmes et que c'est à ce titre qu'elles doivent et qu'elles peuvent être combattues. Il faudra attendre donc 1995 pour que l'OMS développe une première typologie des mutilations sexuelles construite autour d'une catégorisation donc en quatre types et qui sera rédigée à partir des travaux d'un groupe technique mobilisé sur le sujet. Par la suite, l'OMS réalisera une mise à jour de cette typologie en 2008, mise à jour qui sera médiatisée à travers la déclaration interinstitution signée par 10 agences de l'ONU à cette occasion. Si je reviens donc maintenant sur le détail de cette typologie mise en œuvre donc en deux étapes par l'OMS, la première typologie proposée en 1995, donc suite à la réunion de ce groupe de travail technique, s'est appuyée sur les premières études cliniques menées sur les conséquences anatomiques de l'excision. Si je cite les propos tenus par l'institution de l'OMS, le but de cette classification était, et toujours, d'être utile à la recherche sur les conséquences des différentes formes de mutilation sexuelle féminine, d'être utile à une bonne définition des estimations de prévalence, sur lesquelles donc, nous sommes revenus dans les deux premières présentations ici, de permettre de mieux mesurer l'évolution des comportements, de fournir un outil pour les examens gynécologiques, donc à l'usage des professionnels de santé, et pour guider la mise en place de dispositifs de prise en charge, que ce soit dans le cadre de la santé ou dans le cadre d'affaires juridiques. La perspective de l'OMS était bien de créer une typologie commune, utilisée dans tous les pays où vivent des femmes concernées, afin de garantir la comparabilité des données. Néanmoins, l'OMS, et là encore je cite le rapport, déclare très explicitement que, évidemment, une classification entraîne naturellement une simplification et par conséquent ne peut pas refléter la grande variabilité des pratiques effectives. Alors cependant, comme vous le voyez sur ce tableau, la première typologie donc développée en 1995 a été affinée en 2008, pardon. Certains chercheurs ayant mis en lumière les limites de cette première catégorisation, l'OMS a donc à nouveau organisé un certain nombre de consultations afin de revoir cette typologie et d'évaluer des solutions possibles. Alors, en 2008, l'OMS faisait le constat que les données disponibles pour revoir fondamentalement cette typologie restaient insuffisantes. Que donc la typologie en quatre types de mutilation, les types 1, 2, 3 et 4, restait d'actualité, même si elle a été donc légèrement modifiée dans le libellé des types et des subdivisions ont été créées à l'intérieur de ces catégories afin d'essayer de cerner plus précisément la variabilité des interventions subies par les femmes. Il faut donc cependant retenir que cette catégorisation proposée par l'OMS est bien basée sur le type d'acte pratiqué au moment de la mutilation et donc une spécification la plus précise possible dans la typologie de 2008 des conséquences anatomiques qui sont liées. Alors, dans le même temps et en parallèle à cette typologie donc basée sur le type d'acte pratiqué, l'OMS va aussi commencé à recenser de manière de plus en plus fine les conséquences de ces pratiques sur la santé des femmes concernées. La déclaration de 2008, partant ainsi du principe que, je cite, « d'une manière générale, les risques de santé augmentent de manière proportionnelle à la gravité de l'intervention ». Alors synthétiquement, sur cette diapositive ici, les conséquences sur la santé vont être catégorisées par l'OMS, toujours sur cette même logique, des conséquences immédiates du type douleur, choc, hémorragie, décès, transmission du VIH notamment, et en conséquence à long terme, tout ce qui relève des douleurs chroniques, des infections ou des kystes. Et enfin, dans l'analyse proposée par l'OMS, trois types de conséquences vont particulièrement être mises en avant et susciter donc des recherches de santé publique nombreuses: les risques obstétricaux, les dysfonctions sexuelles et les troubles psychologiques. De nombreuses études cliniques menées sur des cohortes de femmes concernées ont permis de valider la liste de ces conséquences. On peut citer par exemple l'étude d'Emily Banks et de ses collègues menée dans 6 pays africains, mais c'est juste un exemple parmi les très, très nombreuses études qui existent. Donc ces résultats montrent et valident généralement que les mutilations sexuelles, quel que soit le type de mutilation, peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé pour certaines femmes concernées. Alors cependant, la plupart de ces études concluent aussi, ou alors en tout cas formulent quelques questionnements autour de l'intérêt de mobiliser la typologie pour étudier et appréhender ses conséquences sur la santé. Et notamment, quelques études montrent en effet que cette typologie est finalement difficilement mobilisable pour plusieurs raisons. J'ai retenu ici seulement deux études particulièrement importantes sur le sujet qui montrent que la fiabilité des réponses des femmes concernées n'est généralement pas très bonne. Dans l'enquête menée par exemple par Suzanne El-Moucharaf et ses collègues au Soudan, elle montre que près de la moitié des femmes interrogées dans le cadre d'une étude sur les conséquences de l'excision montrent que près de la moitié d'entre elles déclare un type d'excision qui est différent de ce que le médecin aura évalué lors d'un examen gynécologique. Je précise, un type différent de mutilation diagnostiquée par un médecin formé sur le sujet. Je voudrais revenir maintenant sur l'enquête que nous avons menée en France en 2007-2009, où nous avons aussi essayé d'aborder cette question à travers l'analyse des données collectées auprès de plus de 2800 femmes que nous avions interrogées, dont 615 femmes avaient subi une mutilation sexuelle. Je ne rentre pas dans le détail de la description de l'enquête, mais c'était une enquête de type cas témoin qui nous a permis donc de proposer une évaluation des conséquences de long terme sur la santé des femmes concernées à partir d'un questionnaire administré par des enquêtrices en face-à-face. Dans une partie de l'échantillon, à peu près 60%, nous avons enregistré un diagnostic auprès des professionnels de santé qui accueillaient les femmes en consultation. Il faut préciser ici que dans notre enquête, les médecins n'avaient pas été spécifiquement formés à diagnostiquer l'excision. C'était les médecins habituels qui accueillaient ces femmes en consultation. Et c'est un élément important. Donc voici ce que nous avons pu constater à travers les réponses collectées lors de cette enquête. C'est que les déclarations, là encore, les déclarations des femmes et les déclarations des médecins n'étaient pas toujours identiques. Bon, quand même, dans 90% des cas, les réponses sont similaires pour ce qui concerne le statut d'excisé. Est-ce que cette femme ou est-ce que vous avez subi une excision, oui ou non, le taux d'accord entre ce que déclare le médecin qui a fait un examen gynécologique et la femme est de 90%. Par contre, là encore, on a constaté que la qualité de l'information recueillie sur les types de mutilations est relativement pauvre. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que des professionnels de santé non formés, notamment donc dans un pays européen où les mutilations restent un phénomène rare et qui est peu familier pour la plupart des médecins, on trouve un certain nombre de cas où les femmes déclarent avoir subi une mutilation, une excision, et les médecins ne le voient pas ou considèrent qu'ils ne sont pas capables de donner un avis sur le sujet. On demandait aux femmes si elles savaient si oui ou non, au cours de l'acte qu'elles avaient subi, elles avaient eu une couture ou non autour de la zone vaginale. Là encore, plus de la moitié d'entre elles répondaient qu'elles n'en savaient rien. Donc, les analyses, plus généralement, les analyses plus fines menées sur notre échantillon montrent bien que les femmes interrogées n'avaient généralement parlé à personne de leur situation et de leur statut d'excisé, et qu'elles étaient aussi très mal informées à la fois sur leur statut, pour certaines d'entre elles, notamment les plus jeunes, ne sachant pas même si elles étaient excisées ou non, et plus généralement sur la nature de l'acte qu'elles avaient subi. Donc la qualité de l'information recueillie auprès des femmes en auto-déclarée, mais même auprès des professionnels de santé non formés, n'est pas totalement fiable, loin de là. Par contre, toujours dans le cadre de cette enquête, nous avons pu collecter au contraire des informations détaillées et très précises sur les conséquences médicales qui peuvent être associées à ces pratiques. Une des originalités de l'enquête excision et handicap a été d'aborder la question des mutilations sexuelles en utilisant le modèle du handicap développé lui aussi par l'OMS et qui nous a semblé être un outil très pertinent pour aborder cette question. Nous avons appliqué le modèle du handicap à trois niveaux, médical, fonctionnel et des restrictions sociales. Les mutilations sexuelles ont donc, sur le long terme, des conséquences en termes de lésions au premier niveau, en termes de limitations fonctionnelles ensuite, et dernière étape, potentiellement en termes de restrictions d'activité. Donc un exemple ici, les lésions physiologiques ou anatomiques peuvent entraîner des limitations fonctionnelles au niveau urogénital qui eux-mêmes vont entraîner une restriction en termes de vie sexuelle. Ces trois niveaux vont déterminer différents niveaux d'intervention pour la prise en charge médicale. Et les conséquences globales des mutilations sexuelles en matière de santé sont en fait la somme de ces trois dimensions. Juste pour vous donner quelques éléments de réponse, donc les résultats tirés de nos analyses montrent que dans le contexte français, c'est-à-dire dans un pays dans lequel les systèmes de santé publique sont de très grande qualité et où par ailleurs les femmes que nous avons auprès de qui nous avons enquêté avaient subi des mutilations sexuelles, enfin étaient originaires de pays dans lesquels les mutilations sexuelles pratiquées étaient censément les moins invasives, toujours si je reprends la typologie de l'OMS entre le type 1 et le type 2, on voit que pour la plupart d'entre elles, pour une partie d'entre elles, les risques de santé sont plus élevés. Donc sur ce graphique, vous voyez que les risques de santé des femmes excisées par rapport à celles qui ne le sont pas, toutes choses égales par ailleurs. Donc si le petit point de couleur là est sur la ligne du 1, ça veut dire qu'il y a autant de risques pour une femme non excisée que pour une femme excisée de connaître ses risques de santé. Par contre, dès que le point monte vers 2 ou 3, c'est que donc les femmes excisées ont deux fois ou trois fois plus de risques de connaître ce type de pathologie. Donc on voit que dans l'échantillon auto-déclaré de santé qu'on a rempli auprès de ces femmes, que ce sont les infections urinaires et gynécologiques qui sont les plus fréquentes et que c'est beaucoup au niveau de la vie sexuelle qu'elles déclarent de nombreuses dysfonctions. Les résultats ne sont pas présentés ici, mais nous n'avons pas mis en évidence de risques obstétricaux plus élevés, sauf pour les déchirures. Et nous n'avons pas mis en évidence de risque plus élevé en analysant les données selon le type de mutilation, même si, comme je vous l'ai dit, cette variable n'était pas très convaincante dans notre base de données. Voilà, donc pour conclure, ce que je souhaiterais proposer, c'est que la typologie développée par l'OMS donc depuis 1995, a été une avancée fondamentale pour la reconnaissance des mutilations sexuelles et de leur caractère dramatique. Elle a permis de rendre visible et mesurable la prévalence de ces pratiques dans toute leur diversité. Cependant, on doit faire le constat aujourd'hui qu'elle présente un certain nombre de limites, comme c'est d'ailleurs dit très explicitement dans la déclaration interinstitution de 2008. D'un certain point de vue, elle n'est finalement pas très utile pour les professionnels de santé, notamment quand ils ne sont pas formés, qui se focalisent sur la question des types de mutilations et qui finalement laissent souvent de côté l'analyse des conséquences et la prise en compte des conséquences. Elle ne tient aussi pas réellement compte du contexte sanitaire, alors qu'il impacte très clairement les conséquences et les risques de santé. Et elle ne permet pas toujours, et donc plusieurs recherches l'ont montré, de montrer les associations entre la gravité des séquelles, si elles existent, les conséquences et le type de mutilation. Donc quelques propositions que je donne en guise pour lancer le débat, que peut-être il serait intéressant de réviser la classification en essayant de mieux relier les différents types de mutilations aux conséquences, d'appuyer peut-être l'analyse de la question des mutilations sexuelles sur le modèle du handicap pourrait être une option assez opérationnelle. Et enfin, peut-être que d'aborder et de mobiliser les outils d'analyse relevant des notions de vulnérabilité pourrait être aussi une solution pour avoir une approche plus contextualisée de la situation des femmes ayant subi une mutilation sexuelle en tenant compte de leur contexte de vie au sens large. Et je m'arrêterai là-dessus. Je vous remercie.